Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise migratoire de nouveau à la une ce matin au niveau européen avec une réunion des ministres de l'Intérieur au Luxembourg pour tenter d'harmoniser la réponse des 28 face aux arrivées de demandeurs d'asile. En France également avec un nouveau plan du gouvernement pour l'intégration des étrangers. Des annonces qui tombent en même temps qu'un rapport cinglant contre le ministre Gérard Collomb de l'accueil des migrants au respect des droits élémentaires des mineurs notamment. Rien ne va au poste frontière de Menton, vous l'entendrez dans un instant.
Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit aujourd'hui à Paris son offensive pour tenter de créer un front commun contre l'Iran.
L'Iran qui veut enrichir son programme visant à accroître ses capacités d'enrichissement en uranium. C'est ce qu'a déclaré hier soir le guide suprême de la révolution iranienne à la télévision. Les derniers jours de la marque Monsanto, en l'absorbant, le groupe allemand Bayer a décidé de supprimer le nom de l'américain. Les marques vivent à l'heure d'une mutation accélérée, c'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, réforme de l'audiovisuel public, évolution ou révolution, posera la question à Philippe Bailly.
Vont-ils enfin sortir de l'impasse politique et faire avancer la réforme du système d'asile européen ? Les ministres de l'Intérieur de l'UE se retrouvent aujourd'hui au Luxembourg pour tenter de mettre fin notamment à la controverse sur d'éventuels nouveaux quotas de répartition des demandeurs d'asile après ceux qui ont tant divisé l'Union européenne depuis 2015. C'est une réunion préparatoire au sommet des 28 et 29 juin prochains à Bruxelles. Les États membres s'étaient fixés cette date limite pour trouver un consensus sur la réforme du règlement Dublin qui fait actuellement peser la charge principale de l'asile sur les pays dits de première ligne comme la Grèce ou l'Italie, où sont enregistrés en premier les demandeurs d'asile. Un règlement contesté bien sûr à Rome, l'Italie qui a vu arriver plus de 700 000 migrants sur son territoire depuis 2013, alors que Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, a lancé ce week-end cet avertissement aux migrants. Ils doivent se préparer à faire leurs valises. Matteo Salvini promet aujourd'hui de nouvelles mesures drastiques pour envoyer les migrants déboutés de la demande d'asile dans leur pays d'origine. Plus facile à dire qu'à faire, selon les acteurs du dossier. À Rome, le reportage de notre correspondante Mathilde Imberti.
À quelques pas de la grande gare de Tiburtina à Rome, des tentes écrasées par le soleil, à même le bitume où dorment chaque nuit 200 migrants environ. Et parmi eux, beaucoup de ces sans-papiers que Matteo Salvini, nouveau ministre de l'Intérieur, promet d'expulser. Une promesse irréalisable selon Andrea Costa, qui est le coordinateur des bénévoles sur ce campement.
C'est
complètement démagogique et l'Italie n'arrive même pas à accueillir correctement 100 000 demandeurs d'asile. Comment voulez-vous qu'elle arrive à renvoyer par avion 630 000 sans-papiers ? Ce ne sont que des slogans.
L'an dernier, 6 000 migrants ont été renvoyés d'Italie. À ce rythme, il faudra un petit siècle au nouveau ministre de l'Intérieur pour atteindre son objectif. Car un rapatriement nécessite l'accord du pays d'origine et engendre des coûts. Alors la police ferme les yeux, raconte Karim, 39 ans, égyptien sans papier à Rome.
Je me fais arrêter très souvent au hasard des rues. Les agents me demandent mes papiers. Parfois, ils me laissent repartir. Parfois, ils m'envoient au bureau de l'immigration. Et je ressors avec une obligation de quitter l'Italie dans les 7 jours. Mais je reste ici.
Matteo Salvini déclare, je cite, que la fête est finie pour les migrants et confirme la création d'un centre de rétention par région. Mais les élus locaux pourraient lui opposer assez rapidement de la résistance.
Et le nouvel gouvernement italien populiste dirigé par Giuseppe Conte affronte aujourd'hui le Parlement pour obtenir la confiance, un vote en principe sans danger pour la coalition entre la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles anti-système, alliance qui a la majorité dans les deux chambres. En France, à présent, ce doit être le versant humaniste d'une politique qui se veut intraitable contre l'immigration irrégulière. Le gouvernement présente aujourd'hui ses pistes pour améliorer l'intégration des étrangers, doubler par exemple les heures de cours de français pour les réfugiés jusqu'à l'insertion dans l'emploi et dans la vie économique. 100 à 200 millions d'euros pourraient être mis sur la table. Davantage de logements aussi pour éviter que des réfugiés ne dorment à la rue comme ce fut le cas pour une centaine de migrants évacués la semaine dernière de tentes insalubres dans le nord-est de Paris. Mais ce nouveau plan du gouvernement est annoncé alors que le contrôleur général des lieux de privation de liberté épingle le ministère de l'Intérieur à cause des locaux de la police aux frontières de Menton, le poste frontière où une centaine de migrants ont été renvoyés vers l'Italie chaque jour l'an dernier. Rien ne va plus, ou presque, pour les contrôleurs qui se sont rendus sur place, Mathilde Demy.
Odeurs pestilentielles dans les toilettes, détritus, manque de nourriture et d'eau, les locaux de la PAF de Menton sont loin d'être accueillants, y compris pour les policiers, relève le rapport. Mais c'est sur le respect de la loi qu'il est le plus cinglant. Contrôle aux faciès, refoulement direct sans notification des droits, non-enregistrement des demandes d'asile, un constat mille fois dénoncé par l'avocate niçoise Mireille Damiano.
Nous avions dénoncé un espèce de circuit qui est l'interpellation en gare de Menton, refus d'entrée et retour par le train qui va sur Vintimille. Pas d'examen approfondi de la situation des mineurs, pas d'administrateur ad hoc, pas d'interprète. Nous souhaitons que les droits soient purement et simplement observés. Voilà.
Depuis le contrôle en septembre, la PAF assure avoir apporté des améliorations, ce que contestent les militants qui observent les va-et-vient comme Teresa Maffeis dimanche dernier avec un migrant mineur.
Il m'a dit voilà, moi je suis mineur, ils m'ont changé la date. Donc arrivé au poste frontière italien qui est à 5 minutes, la police italienne l'a raccompagné à la PAF de Menton. Donc on croyait que sur les mineurs au moins il n'y avait plus cette pratique illégale. Et ben voilà, ça continue.
Lors du contrôle des rapporteurs, un policier a giflé un mineur. Une procédure est en cours. Le rapport conclut sur ces mots, dans un contexte de pression politique, les policiers accomplissent leur mission à la chaîne.
Et le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu aux contrôleurs des lieux de privation et de liberté.
7h06 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. L'Iran va informer aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se réunit depuis hier à Vienne du lancement d'un programme visant à accroître sa capacité d'enrichissement d'uranium.
C'est ce qu'a déclaré hier le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, dans un discours à la télévision. Il veut augmenter la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran au cas où l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien venait à s'écrouler après le retrait des États-Unis du texte le mois dernier, et d'insister sur l'importance pour la sécurité de Téhéran de son programme de missiles balistiques. L'ayatollah Khamenei a même prévenu les Européens qu'il ne fallait pas espérer de concessions de la part de l'Iran sur ce plan. De quoi donner de nouveaux arguments aujourd'hui au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui continue sa tournée en Europe pour tenter de convaincre les signataires du texte de 2015 d'abandonner définitivement l'accord sur le nucléaire iranien. Après l'Allemagne hier et avant le Royaume-Uni demain, Benjamin Netanyahou rencontre aujourd'hui Emmanuel Macron à Paris, et il arrive fort du soutien de son opinion publique, Étienne Monin.
Ce qui fait qu'aujourd'hui le Premier ministre s'envole dans les sondages, c'est avant tout la gestion du dossier iranien. C'est devenu un marqueur politique dans sa carrière. Il a agi militairement il y a quelques semaines pour tenter de déraciner les positions iraniennes en Syrie, et il a réussi à devenir le meilleur allié de Donald Trump pour défaire l'accord nucléaire, tout en gardant de très bons liens avec Vladimir Poutine pour pouvoir agir toujours en Syrie. Il est devenu un acteur régional imposant, estime Freddy Etan, du centre de Jérusalem pour les affaires publiques.
Netanyahu aujourd'hui détient la clé du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Il peut faire la pluie et le beau temps s'il le souhaite. Ce rôle d'influence de Netanyahu, non seulement sur la destinée d'Israël, mais aussi sur le Proche-Orient en général. Donc c'est pour ça qu'on essaye de le consulter. Et Israël aujourd'hui, à la tête de Netanyahu, donc, se trouve dans une situation favorable dans l'arène internationale.
En Israël, la stature de Benjamin Netanyahu dépasse les autres politiques. Son intransigeance affichée dans la gestion des récentes crises sécuritaires paye dans l'opinion publique. Son parti dans les sondages est en constante progression.
Étienne Monin à Jérusalem pour France Culture. Au Vietnam, des sacs plastiques recouvrent la mangrove et les îles indonésiennes n'ont parfois plus rien de paradisiaque. La Chine, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, à eux seuls, ces 5 pays asiatiques rejettent chaque année plus de 4 millions de tonnes de plastique dans les mers du monde, soit la moitié du total des rejets. C'est ce qu'indique ce matin l'ONG Ocean Conservancy à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Il est donc urgent de remettre de l'équilibre dans la nature face à la puissance destructrice de l'homme. C'est ce que pense l'astrophysicien Hubert Reeves, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité et de l'Agence française pour la biodiversité.
C'est toujours la même histoire. Nous sommes comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Nous bougeons et nous saccageons. Et c'est ça qu'il faut apprendre à guérir. Il faut apprendre à vivre avec la nature dans toute sa subtilité, retrouver tous ces liens qu'il y a. Je pense en particulier aux vers de terre qui sont aujourd'hui un problème majeur. Le problème des vers de terre, ça a l'air de rien du tout. Apprendre que les vers de terre ont diminué de 90% dans nos régions, ça fait pas la une des journaux. C'est pas comme le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, évidemment, c'est spectaculaire. On apprend les grosses tempêtes, tout ça. Le problème des vers de terre qui sont comparables en gravité au problème du réchauffement climatique, parce que ça, les vers de terre, ça fortifie les sols, ça fait des trous où l'eau peut rentrer, l'atmosphère, l'air, ça mange les feuilles mortes et tout ça. Et quand on tue les vers de terre, on stérilise les sols. Et donc nos sols se stérilisent progressivement alors que la population est toujours croissante. Alors c'est directement qu'allons-nous manger qui est le problème tel que nous pouvons poser.
L'astrophysicien Hubert Reeves, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité, il était l'invité de Cause à Effet, le magazine de l'environnement diffusé dimanche de 16h à 17h sur France Culture avec Aurélie Luneau, réalisation Alexandra Malka, à réécouter sur franceculture.fr. L'urgence environnementale et la délicate position de Nicolas Hulot au sein du gouvernement après le refus des députés d'interdire d'ici 3 ans le glyphosate, cet herbicide controversé, considéré comme cancérogène par l'OMS. Après ce revers supplémentaire, Nicolas Hulot arrivera-t-il à peser et à rester au sein du gouvernement ? L'analyse de Léa Mormin-Chauvac.
Une fois de plus, avec le glyphosate, Nicolas Hulot a dû renoncer sur un sujet majeur pour l'environnement. Il s'est dit déçu, tout en estimant que l'objectif n'était pas remis en cause. Pour Pascal Canfin, directeur du WWF France, Nicolas Hulot devrait davantage utiliser sa popularité pour faire pression lors des arbitrages.
Je pense que Nicolas Hulot n'utilise pas toutes les marges de manœuvre dont il dispose et que lui offre sa popularité exceptionnelle. Il doit donc ouvrir une nouvelle séquence, ça veut dire faire un peu plus de politique.
Le ministre est pris en étau entre la pression des associations et sa position au sein du gouvernement. L'organisation Les Amis de la Terre s'insurge contre un nouveau recul sur l'huile de palme, après l'autorisation accordée à contre-cœur par le ministre. Alors Nicolas Hulot, nommé pour assurer la transition écologique, ne serait-il rien d'autre que la caution écologiste du gouvernement ? Trop tôt pour le dire, selon Mathieu Orphelin, député La République En Marche, proche du ministre de la Transition écologique.
C'est à l'été qu'on pourra voir si on est sur la bonne direction, à la hauteur des enjeux. C'est pas aujourd'hui. La mobilité, la pollution, la programmation de l'énergie, tous ces sujets-là arrivent maintenant sur la table. Moi, je demande à être jugé cet été. Bien sûr que Nicolas Hulot est utile au gouvernement. C'est le mieux placé pour réussir cette transition énergétique.
Prochain dossier sensible pour Nicolas Hulot, le chantier de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui définira l'orientation que prend le gouvernement sur le nucléaire.
Glyphosate, les lobbies intoxiquent-ils les politiques ? C'est la question que vous poserez, Guillaume Herner, à partir de 7h40 à votre invité Stéphane Foucard, journaliste au Monde, rejoint ensuite par la députée En Marche, Marie Lebec.